Il est 8h21.
France Inter. Frédéric Mettezo. Le 6-9 de l'été.
Bonjour Agnès Buzyn.
Bonjour.
Ministre des Solidarités et de la Santé, les auditeurs pourront s'adresser à vous dans un quart d'heure environ au 01 45 24 7000 avant d'évoquer la loi bioéthique très très complexe et très dense. Un mot sur cette nouvelle vague de chaleur, température affolante, nouvelle vague de canicule. Est-ce que vous avez des remontées du terrain et surtout des enseignements de la vague du mois dernier ?
Oui. Effectivement, le mois dernier, nous avons vu que les mesures de sécurité qui sont prises dans les lieux collectifs et notamment vis-à-vis des personnes âgées ou des enfants en bas âge fonctionnent bien et permettent une bonne prévention des complications liées à la chaleur. Par contre, nous observons des prises de risque des citoyens qui ne se sentent pas concernés par ces vagues de chaleur. Et
on l'a entendu à 8h, oui. Des gens qui vont faire du jogging l'après-midi en Normandie où il faisait 35, 36, 37.
Oui, alors il faut comprendre qu'en réalité, au-dessus de 37 degrés, qui est la température du corps humain, notre corps fait un effort considérable pour pouvoir se refroidir et pour que la température du corps ne monte pas au-dessus de 37 degrés. Et donc si on rajoute à cet effort que fait notre cœur pour nous faire transpirer en réalité, eh bien si on rajoute un effort sportif, en réalité on double les difficultés pour notre corps à maintenir la température et on aggrave donc considérablement le risque de voir la température du corps augmenter. Et on sait qu'au-dessus de 41 degrés, on fait ce qu'on appelle une hyperthermie avec des conséquences qui peuvent aller jusqu'à la mort. Donc il est vraiment totalement non recommandé de faire du sport en période de canicule.
Même si on est jeune, même si on est entraîné, en
absolument,
pleine forme.
Absolument, parce que en fait, on subit les mêmes risques que n'importe qui au-delà de 37 degrés, parce que le corps est soumis à un effort considérable. Ensuite, l'autre risque que nous voyons, ce sont des gens qui prennent leur voiture et ne s'hydratent pas. Or, dans les voitures, la température monte très très vite. C'est la raison pour laquelle il ne faut laisser aucun enfant, aucun animal d'ailleurs, dans une voiture au soleil. Et enfin, nous voyons un risque accru de noyade parce que les enfants sont au bord de l'eau et ont tendance à aller se rafraîchir, mais les adultes aussi plongent dans l'eau alors que la température du corps est très élevée et la différence de température entraîne un malaise avec des noyades d'adultes.
L'hydrocution.
L'hydrocution, la fameuse hydrocution dont on entendait parler il y a quelques années. Il faut se mouiller avant de plonger dans l'eau et ce sont aujourd'hui les accidents que nous voyons le plus en période de canicule.
Ceux pour qui c'est dur, ce sont les personnels des urgences. C'est dur toute l'année, ça l'est encore plus en période de canicule parce que il fait chaud dans les hôpitaux et il y a plus de travail. Le syndicat FO des services publics vous a écrit, Madame la Ministre, il vous demande une prime canicule. Vous pourrez donner suite à cette demande. Ça avait été le cas en 2003.
Alors, en réalité, aujourd'hui, effectivement, en 2003, les urgences avaient été absolument débordées par les personnes âgées parce qu'il n'y avait pas de plan canicule. Aujourd'hui, en réalité, ces choses-là sont bien prévenues dans les établissements pour personnes âgées. Les communes recontactent les personnes âgées isolées. Et je demande aussi à tous nos concitoyens qui ont des voisins âgés isolés de prendre des nouvelles. Parce que l'été, souvent les familles sont loin, elles sont en vacances. Donc il faut prendre des nouvelles de ses proches ou de ses voisins. Mais en réalité, les urgences aujourd'hui ne sont pas débordées en raison de la canicule. Le nombre de passages aux urgences lors du précédent épisode de canicule en juin, représentait à peu près 3% des passages aux urgences. Donc, ça n'est pas le sujet. Par contre, les urgentistes ont maintenant une prime de risque. Toutes les personnes qui travaillent aux urgences, sauf les médecins, mais tout le personnel, a une prime de risque à partir du mois de juillet de 100 euros net par mois pour prendre en compte les risques et les incivilités auxquels ils sont soumis au quotidien.
Agnès Buzyn, vous présentez aujourd'hui la loi bioéthique avec vos collègues chargés de la justice et de la recherche. Alors c'est une loi très vaste à tiroir. Premier enseignement, élément le plus important de cette loi, la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes, qu'elles soient en couple ou célibataires, intégralement remboursée par la Sécurité sociale. C'était important d'aller jusqu'au bout avec ce remboursement par la Sécurité sociale ?
Oui, peut-être avant de venir au contenu de la loi, je souhaite rappeler aujourd'hui que nous étions obligés de réviser les lois de bioéthique par la loi tous les 7 ans. c'est prévu, et que cette loi fait l'objet d'une très vaste concertation.
Avec... Il y a eu beaucoup de débats publics, de consultations, de contributions, en a rendu compte sur France Inter.
Absolument, près d'un an de travail avec des citoyens, avec des experts, des rapports qui ont nourri en réalité l'écriture de la loi. Donc effectivement, dans cette loi, il y a plusieurs thèmes, le thème de la procréation, le thème des greffes d'organes, de cellules, de tissus, le thème de la génétique et le thème de la recherche qui sera défendu évidemment par Frédéric Vidal, la ministre de la recherche. Et donc sur la procréation, effectivement, nous avons regardé si la technique de procréation médicale assistée, si elle était étendue à toutes les femmes, mettait à mal des principes éthiques fondamentaux. Et les principes éthiques fondamentaux dans notre pays, c'est la dignité du corps humain, c'est la liberté de choix et c'est la solidarité. Le fait qu'on donne, par exemple, ses organes ou ses tissus de façon solidaire, sans rémunération.
Sans rémunération.
Donc, ces principes éthiques, c'est ce qui fonde aujourd'hui les lois de bioéthique à la française. Nous sommes un des seuls pays à disposer de lois pour encadrer les techniques médicales et le progrès scientifique. Et quand on regarde si ces valeurs éthiques sont mises en tension par la procréation médicalement assistée à toutes les femmes, on s'aperçoit que cela ne pose aucun problème éthique. Et donc, il n'y a pas de raison de refuser l'accès à ces techniques pour des raisons éthiques. Alors, certains évoquent l'intérêt de l'enfant. Nous avons aussi regardé l'intérêt supérieur de l'enfant et toutes les études montrent aujourd'hui que les enfants élevés dans des couples homosexuels ou par des mères célibataires n'ont pas de problèmes particuliers, différents des enfants élevés dans d'autres couples. Et donc, je dirais que tous les voyants sont au vert aujourd'hui pour autoriser cette technique à toutes les femmes.
Il y a une demi-heure de cela, le député LR Guillaume Larrivé disait sur France Inter, c'est la possibilité, c'est la porte ouverte à l'eugénisme, au transhumanisme, voilà, c'est le mot qu'il a emprunté.
Alors, je crains malheureusement que tout le monde ne maîtrise pas absolument les concepts qu'il y a derrière. Justement, la loi aujourd'hui ne permet aucun élargissement de l'accès à des tests génétiques. Par exemple, ce que vous pouvez faire en envoyant un peu de salive sur par Internet, enfin...
Sur des sites américains, via des sites américains
ou chinois. En réalité, la France s'oppose à ce type de test, justement pour éviter d'abord que nos concitoyens aient des informations erronées dont ils ne sauraient pas quoi faire en termes de risque de maladie, puisqu'aujourd'hui, ces informations sont très peu robustes, très peu calibrées, et donc les gens seraient soumis à une inquiétude parce qu'on leur annoncerait une probabilité de maladie qu'ils ne risquent pas d'avoir. Et deuxièmement, pour éviter toute dérive eugénique, justement, c'est un point auquel nous sommes extrêmement vigilants. Donc, je pense que les propos de Monsieur Larrivé prouvent justement que soit il n'a pas lu la loi, ce qui est probable parce qu'elle n'est pas
encore
publique.
Elle n'est pas encore arrivée au Parlement.
Et deuxièmement, justement, que nous avons veillé à ce qu'il n'y ait aucun risque de ce côté-là.
Vous dites et vous redites avec vos collègues ministres de la Justice et de la Recherche que la GPA, la gestation pour autrui, reste interdite en France parce que c'est l'argument de ceux qui s'opposent à la PMA qui disent c'est quasiment automatique, on va arriver à la GPA, même si ça n'est pas le cas dans les pays où la PMA est autorisée.
Alors, effectivement, il n'y a aucun risque en réalité de passer de l'un à l'autre puisque quand on regarde ce qu'est la gestation pour autrui. Les mères porteuses. Et qu'on regarde si cela met en difficulté nos valeurs éthiques, on s'aperçoit que, immédiatement...
Là, vous répondez oui.
On est face à la marchandisation du corps humain et donc au fait qu'on utilise le corps d'une femme, soit... en échange d'argent, par exemple, c'est le cas dans beaucoup de pays. Et donc ça, c'est clairement contraire à nos principes éthiques, et c'est la raison pour laquelle c'est interdit.
Ça demeure interdit. Samedi, Mediapart nous apprenait que le député En Marche, Aurélien Taché, lui, défendait par exemple la GPA au sein d'une même famille, entre deux sœurs, au nom de la solidarité. Cet amendement, s'il était déposé, il sera jugé, il sera rejeté par le gouvernement. Il y aura un avis défavorable du gouvernement ?
Oui, il y aura un avis défavorable du gouvernement, puisque la GPA n'étant pas dans le texte, aucun amendement n'est, à mon avis, recevable sur ce thème-là, mais nous verrons ce que dit l'Assemblée nationale. Nous ne souhaitons pas ouvrir la voie, effectivement, à la gestation pour autrui, parce que c'est quelque chose qui, aujourd'hui, est vraiment contraire à notre éthique fondamentale et à nos principes éthiques qui ont permis d'avoir permis à la France d'avoir des lois qui sont respectées dans le monde entier et regardées dans le monde entier.
Alors on va sortir un tout petit peu du domaine de la santé, mais expliquez-nous pourquoi c'est important, c'est souhaité de mentionner enfants nés par PMA sur les actes de naissance pour les enfants nés de deux femmes.
Alors, nous souhaitons effectivement que lorsque un enfant sera né dans un
couple de femmes,
il apparaît sur son état civil qu'il est né avec les spermatozoïdes d'un donneur, donc c'est ce qu'on appelle un tiers donneur, afin que, d'abord, évidemment, nous ne prétendons pas qu'on puisse naître de deux femmes, donc on acte quelque part dans la loi qu'il faut des spermatozoïdes pour faire un enfant, et d'autre part, ça va lui permettre d'accéder à ses origines, puisque nous ouvrons la possibilité, comme c'est le cas dans de nombreux pays européens, aux enfants nés d'un don, de spermatozoïdes ou d'ovocytes d'ailleurs, à leur majorité, pouvoir contacter leur donneur de spermatozoïdes ou d'ovocytes. C'est ce qu'on appelle l'ouverture de l'accès aux origines. C'est important pour l'enfant de se construire. Ça ne donne aucun droit, ça ne crée aucune filiation, ça permet simplement...
Et c'est soumis à accord du donneur.
Alors, l'accord du donneur sera demandé au moment du don. Et donc, quand un donneur de gamètes, c'est-à-dire de spermatozoïdes ou d'ovocytes, viendra donner aujourd'hui dans les centres de procréation médicalement assistés, eh bien, ces donneurs seront amenés à autoriser un contact ultérieur à la majorité de l'enfant pour que l'enfant puisse connaître
autoriser
son origine.
Ou pas.
Absolument. Donc, tous les dons seront soumis à cette autorisation, c'est-à-dire que tous les donneurs devront donner leur autorisation pour donner leur gamète.
Et sur la mention de la PMA sur l'acte de naissance intégral, plusieurs associations disent oui, mais il y a une différence. C'est des enfants qui vont être un petit peu marqués différemment sur leur acte de naissance.
Alors non,
c'est une discrimination, nous disent les associations.
Non, parce que l'acte de naissance intégrale ne peut être obtenu que par la personne elle-même. Elle n'est jamais donnée à un tiers. Ce qui est donné à un tiers, c'est un extrait d'acte de naissance dans lequel la naissance par procréation médicalement assistée n'apparaîtra
pas. Ne sera pas mentionnée. C'est une sorte d'acte de naissance simplifié,
voilà,
on va dire.
Voilà, c'est un acte de naissance simplifié. Par contre, l'acte de naissance intégrale permettra à l'enfant de savoir qu'il est né d'un don et de pouvoir contacter une commission et un registre des donneurs qui sera tenu par l'Agence de la biomédecine et donc de pouvoir retrouver son donneur à sa majorité.
Également dans cette loi, il sera permis aux femmes concernées de congeler leurs ovocytes pour une grossesse ultérieure. Ça veut dire que elles pourraient décider, ces femmes, d'avoir des ovocytes qui seraient prêts, mais pour une insémination à 1, 2, 3, 4, 5 ans plus tard, ce sera encadré comment ?
Alors, d'abord, il faut comprendre la logique de cette demande. En réalité, notre société évolue. Beaucoup de femmes font parfois des études, ont une vie professionnelle ou une vie amoureuse qui est retardée. Et donc, on s'aperçoit que l'âge du premier enfant augmente dans notre société et les femmes font des enfants de plus en plus tardivement. Or, la fertilité des femmes baisse considérablement après l'âge de 35 ans, de façon assez brutale.
C'est à pic, oui.
Oui, et donc, ça n'est pas une courbe linéaire. Et donc, pour éviter, en fait, l'infertilité des femmes parce qu'elles commenceraient à faire leur premier enfant très tardivement, nous proposons aux femmes, comme ça se fait dans beaucoup de pays, de pouvoir congeler leurs ovocytes, effectivement, en prévision d'une grossesse qui serait plus tardive.
Et les implanter à
l'âge à l'âge de 40 ans, par exemple.
Mais ça veut dire que...
Mais on encadrera l'âge. C'est-à-dire que par décret, on proposera cette technique à des femmes au-delà de 30 ou 32 ans, nous en discuterons dans la loi, pour éviter que toutes les femmes jeunes qui ont encore le temps, évidemment, de rencontrer leur futur époux ou de faire un enfant, n'utilise pas cette technique de façon trop large. On le réserve vraiment à des femmes qui auront dépassé un certain âge. Et de toute façon, l'enfant et la procréation restent encadrés par la loi et se terminent à l'âge de 42 ans, qui est l'âge de procréation normale des femmes.
Mais prenons par exemple un ovocyte fait au moment où la femme avait 35 ans. S'il est implanté quand elle en a 39, c'est comme si l'ovocyte avait été fait à 35 ans.
C'est cela. Donc on préserve en fait une meilleure fertilité de la femme parce qu'on prélève ses ovocytes.
Et là, du coup, médicalement, il n'y a aucune difficulté, il n'y a aucun risque supplémentaire ?
Non, parce que le corps des femmes est fait pour pouvoir porter des enfants jusqu'à 42 ou 45 ans, et donc elles sont en capacité de le faire. Et par contre, leurs ovocytes sont de meilleure qualité parce qu'ils ont été prélevés à un âge
en pleine forme,
où ils sont encore très robustes. Et donc, on évite cette infertilité qu'on voit aujourd'hui apparaître après l'âge de 35 ans. Et c'est aussi une possibilité qui est donnée aux hommes. Car en réalité, la fertilité des hommes diminue aussi avec l'âge. Mmh. Ce phénomène existe aussi chez l'homme, même s'il est plus tardif. Et on permettra également aux hommes de conserver leurs spermatozoïdes.
On va aller au standard, Agnès Buzyn, 8h37, 01 45 24 7000. Bonjour François.
Oui, bonjour.
La ministre vous écoute.
Bonjour Madame la ministre, bonjour à l'équipe de France Inter. Bon, je n'ai aucun problème avec l'autorisation de la PMA pour les couples homosexuels. En revanche, j'en ai un gros problème, c'est sur son remboursement par l'assurance maladie. Pour moi, l'assurance maladie, c'est pour aider les personnes qui sont malades. Et le fait d'être homosexuel en couple est un choix de vie, mais ce n'est pas une maladie.
Donc, merci.
Pourquoi va-t-on rembourser la PMA aux couples homosexuels ?
Eh bien, Agnès Buzyn vous répond, François.
Je comprends tout à fait cette question et beaucoup se la posent. En réalité, si nous ouvrons le droit à la PMA au couple sans ce remboursement, on ouvre un droit formel et pas un droit réel. Car en réalité, les couples de femmes qui aujourd'hui ont les moyens font déjà cette technique en Espagne ou en Belgique où elle est autorisée. Et donc en réalité, ouvrir ce droit formel aux couples de femmes en France sans les aider pour celles qui n'en ont pas les moyens, en réalité, laissera persister...
Ça restera un vœu pieux, en quelque sorte.
Laissera persister cette difficulté liée au budget de ces couples. Et donc, pour permettre à toutes les femmes qui le souhaitent de le faire, nous le remboursons, sachant que nous avons fait une étude d'impact. L'évaluation et l'impact économique est faible, parce qu'en réalité, cela concerne... On imagine autour de 2000 femmes par an, alors qu'aujourd'hui, la procréation médicale assistée, c'est 150 000 actes par an. Donc on voit bien qu'on est dans des proportions qui n'ont rien à voir.
On retourne au standard où nous attend Jérôme. Bonjour Jérôme.
Oui, bonjour. Bonjour Madame la Ministre.
Bonjour,
bonjour la France Inter. C'est une question d'un ancien donneur de gamètes, il y a une dizaine d'années, avec l'accord de mon épouse. Dans un esprit de solidarité, nous qui avions eu nos trois enfants extrêmement facilement. Et ma grande inquiétude personnelle par rapport à votre projet de loi, c'est que par la très forte insuffisance de sperme, déjà aujourd'hui disponible, c'est qu'on ouvre la voie, en fait, vers la rémunération des donneurs d'ici quelques années, sous la pression de la demande. Et si jamais ça n'est pas, je dirais, au niveau français... par rapport aux règles d'éthique que vous évoquiez plus tôt. Nous avons des pays voisins comme par exemple le Danemark qui rémunèrent les donneurs, qui sont en excédent, qui exportent les gamètes. Et on pourrait imaginer qu'on contourne ainsi des principes fondamentaux français en important des gamètes de pays voisins.
Merci.
Ce serait pour moi vraiment une situation dramatique et qui ouvrirait à la marchandisation du corps.
Merci Jérôme de nous avoir appelé au 01 45 24 7000. Agnès Buzyn, ministre de la Santé.
Oui, alors je suis d'accord avec lui, c'est exactement contraire à nos principes éthiques, donc nous ne souhaitons absolument pas importer des gamètes prélevées contre une rémunération, et cet auditeur a tout à fait raison de pointer que ces pratiques existent dans beaucoup de pays. Nos valeurs éthiques font que les dons doivent être solidaires et non rémunérés. Aujourd'hui, nous sommes suffisants en dons de spermatozoïdes. C'est un peu plus compliqué pour les ovocytes. Nous sommes suffisants et donc nous allons faire des campagnes pour recruter des donneurs et expliquer ce qu'est cette solidarité. Donc nous allons accompagner la loi.
Est-ce que vous pouvez déjà nous dire qui sont les hommes concernés, de quel âge à quel âge on peut donner, conditions de santé ?
On peut donner, tout le monde peut donner. Tout le monde peut donner ses gamètes, que ce soit d'ailleurs les ovocytes pour les femmes, même si c'est un petit peu plus compliqué, ou les spermatozoïdes pour les hommes. Ces gamètes sont congelées. par la loi, en réalité, elles ne peuvent jamais servir plus de 10 fois, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'exposer à avoir plus de 10 descendants de ces gamètes, et en général, c'est beaucoup moins, puisque beaucoup de techniques ou de d'essais d'insémination ou de fécondation in vitro n'aboutissent pas à un enfant. Et donc, aujourd'hui, ces gamètes sont en nombre suffisant, et l'ouverture l'accès aux origines, où on va demander au donneur de s'engager à pouvoir être recontacté à l'âge de 18 ans, nous savons que ça va faire un petit peu diminuer les dons. C'est ce qui a été observé dans les autres pays où cela a été permis, mais très rapidement, en réalité, avec des campagnes d'information, eh bien les dons sont remontés. C'est ce qui a été observé par exemple en Angleterre, où cette possibilité a été offerte, et donc nous serons vigilants à accompagner cette loi par des grandes campagnes de recrutement de nouveaux donneurs.
Pour terminer, Agnès Buzyn, cette question de Philippe sur l'application franceinter.fr, on revient sur un dossier un tout petit peu plus ancien. Quelle est la raison du non-remboursement de l'homéopathie ?
Alors, en réalité, quand je suis arrivée au ministère, je ne savais pas que l'homéopathie était remboursée sans n'avoir jamais été évaluée. Or, tous les médicaments aujourd'hui remboursés par la Sécurité sociale font l'objet d'une évaluation. D'ailleurs, c'est le cas dans tous les pays européens où tous les médicaments remboursés par la Solidarité nationale font l'objet d'une évaluation pour savoir si la Solidarité a raison de payer un médicament et s'il vaut la peine d'être remboursé. Seule l'homéopathie, qui est un médicament autorisé, n'avait jamais été évalué pour son efficacité et était remboursé sans évaluation. Donc j'ai demandé à l'autorité qui évalue les médicaments, la Haute Autorité de Santé, d'évaluer l'homéopathie comme tous les médicaments remboursés aujourd'hui par la
Sécurité. Et elle estime que c'est pas plus efficace que cela.
Et elle estime que ça ne fait pas de différence avec un placebo et que donc il n'y a pas de raison de la rembourser, ou en tous les cas, on pourrait rembourser d'autres médicaments qui n'ont pas fait non plus la preuve de leur efficacité. Donc, quelque part, si je maintenais le remboursement de l'homéopathie, il y a tout un tas de médicaments pas plus efficaces qui auraient pu me demander un remboursement, parce que par souci d'équité, ils auraient dit pourquoi moi je ne suis pas remboursée alors que je ne suis pas plus efficace qu'un placebo. Donc, j'ai simplement suivi l'avis d'une autorité scientifique dont c'est le travail d'évaluer les médicaments.
Agnès Buzyn, ministre de la Santé et des Solidarités, était l'invitée du 6-9 de France Inter. Merci et bonne journée.